Va, agis de même, lui dit Jésus. Amen.
Amen.
Le thème de mon court message de ce matin, c'est l'amour du prochain, un acte dangereux. L'amour du prochain, un acte dangereux. Et cette exhortation vient de l'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain, concept qui est largement répandu dans notre petite histoire. Pour la petite histoire, les samaritains et les juifs à l'époque de Christ, ils ne s'entendaient pas. Ils se détestaient mutuellement. Pour les juifs, le samaritain était quelqu'un à mépriser. Et tout ce qui passait par la Samarie était jugé d'impur pour les cultes. S'il y a des choses qui sont passées par la Samarie, on disait on ne peut pas apporter ça au Seigneur parce que c'est passé par la Samarie. Pour eux, la Samarie et les Samaritains, c'était des personnes méprisables, impures. Ils se méprisaient mutuellement. Et l'exemple dans Jean chapitre 4, versets 7 à 10, lorsqu'on parle de la femme samaritaine, on ne prend même pas le temps de nous donner son nom. On dit seulement Jésus et la femme samaritaine. L'auteur n'a même pas pris le temps de chercher comment elle s'appelait. Parce que pour eux, les Samaritains, c'était des personnes négligeables, des personnes qui ne comptaient pas pour beaucoup. Et dans cette histoire de Jean chapitre 4, versets 7 à 10, la Bible dit: une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit: donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une femme samaritaine à boire? Depuis quand on se demande des choses? Depuis quand nous et vous on donne des choses? Depuis quand quelqu'un de chez vous peut venir me demander à moi? Et même quand tu demandais, tu t'attends à quoi? Depuis quand quelqu'un de chez moi peut te donner à toi? Il dit: comment ça se fait? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Car les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit: si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau de vie. Si tu savais qui te dit donne-moi, quel est le don de Dieu, toi-même, tu l'aurais demandé. Et ce qui me surprend dans ces passages, Christ parle du don de Dieu, mais il parle de ce don de Dieu auprès d'une samaritaine. Pour des juifs, il pourrait dire, le don de Dieu n'est que pour nous, les juifs. Dieu, il est Dieu que pour nous. Ce qu'il apporte comme cadeau ne nous appartient qu'à nous. Et Christ, il dit, non, non, même toi, samaritaine, si tu savais. Et ici, ce qui a retenu mon attention, c'est de dire, écoutez, même ces gens que nous n'aimons pas, Dieu les aime. Juste parce que toi, tu n'aimes pas quelqu'un, ne pense pas que Dieu ne l'aime pas non plus. Quand nous avons des problèmes avec des gens, nous aimerions que Dieu les traite comme nous les traitons. Comme c'est mon Dieu, alors il ne peut pas être ton Dieu. Mais ici, Christ, il descend et il dit, c'est vrai que je suis venu pour les Juifs d'abord, mais les Samaritains sont concernés aussi. Lorsque nous acceptons l'amour de Dieu, nous ne décidons pas qui d'autre le reçoit. Nous recevons cet amour, ces cadeaux, ces dons de Dieu, mais sachez que ces cadeaux et ces dons de Dieu sont aussi ouverts et disponibles pour ces gens que nous considérons qui ne méritent rien, comme on l'a dit dans le chant, on était indignes, on ne mérite pas, les Samaritains ne le méritaient pas. Et Christ a dit, le don de Dieu, il est aussi disponible pour ces gens des personnes, ces gens des personnes qui ne sont pas aimés par nos voisins. Les Samaritains, ils étaient issus d'un mélange entre les Juifs et les païens. Et pour eux, ils ont gardé même l'adoration de Yahweh. Ils servaient Dieu, mais au même moment, ils avaient d'autres divinités. Eux, ils adoraient à la montagne des Garizim parce qu'ils se disaient, ils ne peuvent pas aller jusqu'à Jérusalem pour adorer dans les temples. Alors ils ont mis leur temple sur la montagne. C'est pourquoi la femme samaritaine pourrait lui dire à Christ, et il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. On est différents, il n'y a rien entre nous. Elle révèle cette division qui est entre ces deux peuples, mais Christ vient comme celui qui unit, comme celui de mortel. Le contexte de cette parabole La Bible commence en disant qu'un enseignant de la loi, un enseignant de la loi ou un docteur de la loi, qui vient avec une question, mais en venant avec sa question, l'objectif n'est pas de recevoir une bonne réponse et avoir la connaissance, mais l'objectif est de tester Christ. Et le tester, ce n'est pas seulement pour voir s'il connaît, mais tester pour prouver à ceux qui le suivent qu'ils ne devraient pas le suivre. Il vient comme pour le tester avec une question. Le docteur de la loi, lui qui est une personnalité respectable de la communauté, il a investi des années de sa vie à étudier la parole de Dieu. Les docteurs de la loi, c'était ces personnes qui expliquaient la parole de Dieu à d'autres personnes à cause de ce qu'ils faisaient, ou bien grâce à ce qu'ils faisaient. Ils étaient respectables et respectés dans la communauté. Et en face, il y a un jeune rabbin d'à peine 33 ans, 32 ans, qui est en train d'attirer les foules, qui n'a pas l'expérience que lui a, qui n'a pas la connaissance qu'il a, qui n'a pas les diplômes qu'il a. Il n'a pas fait les études que lui, il a fait. Et il se rend compte qu'il y a des foules qui sont en train de le suivre. Et il vient, il dit, je vais venir, je vais juste lui poser une question. Pour que, quand il ne sera pas en mesure de répondre, que ces gens comprennent qu'ils ne devraient pas le suivre, lui. Il vient comme pour le tester, comme, et pour montrer aux autres, non, vous n'avez pas raison de suivre ce gars. Il n'a rien. Il vient avec sa question. Une très bonne question auprès de la bonne personne, mais avec une mauvaise motivation. Bonne question, la meilleure personne, mauvaise motivation. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Une très bonne question. Une question qui est au cœur de la vie de tous les justes de l'époque. On veut tous savoir ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle. Et lui, il vient avec ça. Et l'original dit, quelle est la seule chose que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Christ lui répond au verset 26. Il dit, mais toi-même, tu es docteur de la loi. Un peu pour dire, tu sais ce que la loi dit. Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Et comment toi tu le comprends? Une autre chose qui attire mon attention, c'est bien de savoir ce qui est écrit. Et c'est encore mieux de bien comprendre ce qui est écrit. Il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Et comment toi tu comprends ce qui est écrit? Il y a beaucoup de gens qui lisent et qui viennent avec de mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris tel que Dieu voudrait que ça soit compris. Et Christ dit, tu as lu, c'est bien. Comment tu lis et comment tu comprends ce que tu as lu? Et la question que je vous pose, est-ce que vous lisez? Une deuxième question, comment vous comprenez ce que vous lisez? Comment tu le comprends? Et le docteur de la loi se retrouve en face d'un défi que lui-même a commencé. Christ lui dit, comment toi tu l'as lu, comment toi tu comprends? Et le verset 27, le docteur de la loi a fait quelque chose qui m'a impressionné. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Attends, il y a plus de 500 lois dans l'Ancien Testament. Et de toutes les lois qu'il y a dans l'Ancien Testament, il ne prend que deux pour résumer toutes les lois qui existent. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un peu, il a prouvé qu'il connaît bien sa matière. Et Christ a reconnu que ce gars, il connaît bien sa matière. Il lui dit, c'est bien. Aimer Dieu totalement, aimer son prochain comme soi-même, car c'est là qui résume toute la loi de l'Éternel. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, vous comprendrez que cette première partie vient de Deutéronome chapitre 6, verset 5, qui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il y a quelques semaines, quand j'ai parlé ici, je vous disais que le Deutéronome, c'est la seconde loi, Deutéronomos, qui veut dire la seconde loi. C'est quand Dieu est en train de rappeler la même loi qu'il avait donnée à ceux qui avaient quitté Égypte, mais maintenant ils se retrouvent dans le désert, ceux qui avaient quitté Égypte, qui avaient reçu la loi dans Exode, ils sont morts. Et là, il y a des jeunes qui sont nés dans le désert, qui n'ont pas été là entendre ce que Dieu a dit. Et Dieu envoie Moïse pour parler à ces gens-là. C'est là que Deutéronome vient pour que Dieu parle de la même loi qu'il avait déjà donnée aux autres à cette nouvelle génération. Et dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et de toute ta force. C'est là que vient la première loi. Deutéronome 6, 5. Et qu'est-ce qui vient avant Deutéronome 6, 5? C'est Deutéronome 6, 4. Et dans Deutéronome 6, 4, qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome 6, 4? C'est la prière ou le credo des Juifs qui dit, écoute, ô Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. L'Éternel est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Un peu pour dire, comme il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a personne qui soit comparable à notre Dieu. Alors tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu dois lui donner toute ton affection. Tu ne dois pas partager cela parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui. Tu l'aimeras lui et lui seul. L'Éternel qui est notre Dieu. Et la deuxième partie de la réponse du docteur vient de Lévitique chapitre 18, 19, verset 18, qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui le dit. Alors tu aimeras l'Éternel, ton prochain comme toi-même. Et écoutez la réaction de Christ après la réponse du docteur. Au verset 28, il dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie éternelle. Une autre chose me surprend. Fais cela et tu auras la vie éternelle. Est-ce qu'on est sauvé par ce qu'on fait? Et si je vois un peu le salut par les œuvres, il dit fais cela et tu auras la vie éternelle. Mais une chose est vraie, et très profonde et importante pour notre foi chrétienne. Quand il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, il est en train de donner la base même de la foi chrétienne. Et pourquoi Christ dit, fais cela? Christ ne l'amène pas sur le terrain des actions et des œuvres, mais Christ l'amène à comprendre la réalité de l'amour de Dieu.
Amen.
Et ici, j'aimerais nous dire, avant d'aller très loin, nous ne pouvons pas initier notre amour pour Dieu. Quand il dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il n'est pas en train de l'amener ou bien de l'appeler à initier son amour envers Dieu. Nous ne pouvons pas être initiateurs de notre amour envers Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est répondre à l'amour que Dieu a déjà manifesté pour nous. Quand il dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, il est juste en train de le rappeler. Écoute, il y a l'Éternel qui t'aime, à toi de l'aimer en retour. Un peu pour dire, ça, il dit fais ceci. Il appelle seulement à comprendre et à recevoir l'amour de Dieu. Et dans Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 19, la Bible dit ce qui suit. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne l'aimons pas parce que nous avons choisi. Nous ne l'aimons pas parce qu'un jour on l'a vu passer de loin, on l'a dit. Je l'aime. Mais nous l'aimons parce qu'en fait, nous sommes rentrés en contact de son amour. On a vu un Dieu qui nous a réellement aimés. On a vu son amour et on s'est dit, j'aimerais aimer ce Dieu. Il dit, pour nous, nous l'avons aimé parce qu'il nous a aimés le premier. Quand il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, il veut simplement dire, tu dois répondre à son amour. Tu dois accepter l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Car Dieu nous a aimés et bien aimés. On l'a chanté ici. Cet amour de Dieu, c'est un amour extravagant. C'est un amour qui va au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Et Dieu l'a manifesté envers nous en donnant sa vie pour nous. Et même dans Romains chapitre 5, verset 8, c'est Paul qui parle. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions loin de lui, alors que nous ne méritions rien, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour des gens qui étaient bons. Christ n'est pas mort pour des gens qui étaient bien. Christ n'est pas mort pour des gens qui le méritaient. Il est mort pour des gens qui l'aimaient, malgré ce qu'ils étaient, malgré tout ce qu'ils faisaient, la manière dont ils ont vécu leur vie. Christ est mort pour nous, pour des gens qui ne faisaient, qui n'avaient rien à voir avec lui, qui ne voulaient rien avoir, rien à voir avec lui. Parce qu'en fait, ils ne le connaissaient pas. Mais Dieu nous a aimés au point de ne pas nous laisser dans le péché. Dieu nous a aimés tels que nous étions. Et ici, j'aimerais dire, avant d'aller très loin, le Dieu qui t'a aimé et qui a fait de toi celle que tu es, il continue à aimer ces personnes que toi, tu considères qu'ils ne méritent pas. Quelqu'un a dit, le saint d'aujourd'hui était le pécheur d'hier. Un peu pour dire, le pécheur d'aujourd'hui peut être le saint de demain. Car en fait, ce qu'ils sont, on a été. Ce que nous sommes devenus, ils peuvent devenir. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Dieu aime les pécheurs. Il déteste le péché. Il aime les pécheurs. Il aime tout le monde. Christ est mort pour les pécheurs. Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour tout le monde. Des gens de mauvaise vie. Quand vous imaginez un peu la mauvaise vie, même cette personne-là, Christ est mort pour elle. Et Christ l'a fait pour prouver son amour envers cette personne-là. Il a prouvé son amour envers cette personne-là. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'on nous a lu au début du culte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé. Et en aimant, il s'est dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Il a tant aimé, au point qu'il s'est dit, je dois faire. Alors, ce que je suis en train de dire ici, Dieu a tant aimé le monde qu'il a tout donné pour que nous puissions avoir la vie. La vie en lui, il a tout donné. Et ce que nous faisons, nous ne pouvons que réagir à son amour. Il dit, lorsque tu vois ça, réagir à son amour. Et dans 1 Jean chapitre 20, chapitre 14, 4 verset 20, la Bible dit, c'est lui qui dit, j'aime Dieu et qu'il haït son prochain, est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son prochain qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne les voit pas? Lorsqu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il veut juste dire, tu recevras l'amour de Dieu. C'est cet amour que tu as pour Dieu qui se manifeste dans la manière dont nous aimons les autres. La seule manière de savoir combien on aime Dieu, c'est dans la manière dont nous aimons les autres. Il dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne connais pas, qu'en fait, que tu ne vois pas? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aimer le prochain que tu vois? Il dit, l'amour que tu as envers Dieu se manifeste dans la manière dont tu aimes ceux qui sont à côté de toi. La seule manière de dire ces gens aiment Dieu réellement, c'est dans la manière dont ils sont en train d'aimer les gens qui sont autour d'eux. Et c'est ici que j'aimerais dire la première partie, nous ne sommes pas initiateurs de notre amour pour Dieu. Et la seconde partie, nous sommes initiateurs de notre amour pour le prochain. C'est pourquoi le docteur lui dit, mais qui est mon prochain? Dans ces deux choses, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ça ne t'intéresse pas. C'est aimer ton prochain comme toi-même qui t'intéresse. Parce que le docteur de la loi, il a compris que ça, ce n'est pas ma part. Ça, ce n'est pas mon initiative. Je ne peux recevoir que l'amour de Dieu. Mais pour ma part, c'est l'amour du prochain comme moi-même. L'amour du prochain comme moi-même. Il dit, mais qui est ce prochain que je dois aimer? Mais qui est ce prochain que je dois aimer? Encore lui, il revient, pas parce qu'il veut savoir qui est réellement le prochain, mais la Bible dit, il continue toujours à tester. Mais qui est le prochain que je dois aimer? Un peu pour dire, donne-moi son adresse pour que je ne gaspille pas mon amour sur quelqu'un qui n'est pas ce prochain. Donne-moi, décris-moi ce prochain pour que j'aille donner tout mon amour moi-même. Si c'est quelqu'un de ma famille, alors c'est bon. Bon, pour certains. C'est pas facile d'aimer tous les gens de ma famille. Si c'est cette personne que tu aimes bien, ton meilleur ami, tu diras, mais c'est bien, c'est facile. Mais si c'est ce collègue de travail qui met mal à l'aise tous les jours, tu dis, mais Dieu, attends un peu. Hein. Pas ce boss-là. Pas ce voisin-là qui me dérange tous les jours. Il dit, mais c'est qui mon prochain? C'est là que Christ, au lieu de donner la description de ses prochains, au lieu de donner l'adresse de ce prochain, il raconte une histoire. Et c'est la parabole du bon samaritain. Au verset 30, il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et alors qu'il descendait, il tomba entre les mains des brigands qui les dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Jérusalem, Jéricho, il est en train de parler aux gens qui connaissent. Et les chercheurs de la Bible disent, ce trajet, c'était un trajet dangereux. Il y avait des brigands qui se cachaient dans des caves, dans des grottes, pour attendre des gens qui vont, pour attendre les gens qui vont passer par là. Et ils voyaient des gens passer, ils vont se lever pour faire tout ce qu'ils pouvaient faire et tuer des gens sur cette route. Ils prenaient tout ce que les gens avaient sur cette route parce qu'elle était réputée dangereuse. Et Christ dit, un homme descendait, il passait par là. Et il a rencontré des brigands. Et alors qu'il a rencontré des brigands, ils ont pris tout ce qu'il avait. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont laissé presque mort. Un peu pour dire. Peut-être qu'ils l'ont laissé pensant qu'il était mort. Il était presque mort. Et deux ou trois autres personnes sont passées par là. La Bible dit premièrement, un prêtre descendait par le même chemin. Un prêtre, un serviteur de Dieu. Cet homme qui était intermédiaire entre les hommes et Dieu, cette personne qui avait accès à la présence de Dieu au lieu très saint, qui entrait avec les problèmes des autres, et descendait par le même chemin. La Bible dit, il vit cet homme et passa à distance. Ne soyons pas pressés à juger ce prêtre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être passées par sa tête. On va y revenir. Deuxièmement, la Bible dit qu'il y a un Lévite qui arrive par ce même chemin. Lévite, c'est autre serviteur dans le temple qui travaille avec le prêtre au service de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il le vit, il passa à côté. Après, il y a un Samaritain. Cette personne avec qui on ne parlait pas dans la vie normale, quand tout va bien, on ne se dit même pas bonjour. Et la Samaritaine a dit à Christ, comment toi tu peux me demander à boire à moi qui suis Samaritaine? Donc on ne peut pas se servir. Il n'y a rien qu'on attendrait de l'autre. Samaritain passe par là. Mais il réagit autrement. Et c'est ici que je vais vous partager un peu mon imagination. La personne est tabassée. On l'a dépouillé de tout. Il est presque mort. Il est par terre. Il est en train de mourir. On lui a tout pris. J'imagine le genre de prière qu'il faisait. Seigneur, sauve-moi d'ici. Ou Seigneur, sauve mon âme parce que je ne sais pas s'il y a eu d'espoir. Peut-être il disait, Seigneur, envoie quelqu'un. Mais c'est courir de ces dangers. Peut-être qu'il pensait à sa famille, il dit, Seigneur, j'aimerais revoir mes enfants. J'aimerais revoir ma famille. Il était là et dit, Seigneur, pas aujourd'hui, s'il te plaît. Que je ne meure pas aujourd'hui. Et alors qu'il faisait cette prière, de loin, il voit un prêtre venir. Et les prêtres, on pourrait les reconnaître facilement par les habits. Parce qu'ils avaient des habits spéciaux. Il le voit venir de loin. Il dit, merci Seigneur, il y a quelqu'un. Le prêtre arrive. Merci Seigneur. Tu as entendu. Tu as répondu à ma prière. Et alors qu'il le voit venir, il constate que le prêtre l'a vu. Et après, il voit le prêtre prendre une autre direction. Peut-être qu'il essaie un peu de lever sa main, il dit, je suis là. Mais viens, est-ce que tu m'as vu? Quelques secondes après, il voit le prêtre disparaître sur une autre direction. Il dit, Seigneur, ça y est, il n'y a plus d'espoir pour moi. Donc c'est fini. Le prêtre ne m'a pas vu. Quelques minutes plus tard, il voit un Lévite. Comme ils avaient aussi des habits spéciaux, travailleurs de culte, il s'est dit, Père, peut-être que ce n'est pas encore fini. Merci d'envoyer celui-ci. Il dit, je suis là. Le Lévite le voit. Il lui dit, il passe à côté, sur notre direction. Il s'est dit, ça y est. Donc là, c'est fini. Il n'y a pas d'espoir. Alors qu'il est là, en train de faire sa dernière prière, il voit un Samaritain. Il s'est dit, là, ça y est, et va finir ce que les brigands ont commencé. Dans la vie normale, on ne s'entend pas. On ne se parle pas. Seigneur, cache-moi, il ne me voit pas. S'il était pentecôtiste, il dira, Seigneur, aveugle-le. Qu'il ne me voit pas. Pardon. Et alors qu'il fait sa prière, il voit le Samaritain s'approcher. Il dit, Père, ça y est, il va tout finir. Il le voit descendre de sa monture. Il dit, ça y est, il va me tuer. Et lui dit le Samaritain, il descend. Il le prend. Il prend du vin, de l'huile qu'il avait. Il commence à laver cette blessure. Il est choqué. Il lui dit qu'il le porte. Il les dépose sur sa monture, sur son cheval. Ça veut dire que lui, il va plus monter. Lui, il va marcher. Et il donne sa monture au Samaritain, en fait, au blessé. Et il le conduit. Et le chercheur de la Bible lui dit, de part et d'autre de ce trajet de Jérusalem à Jéricho, il n'y avait que des villages juifs. Et imaginez un Samaritain qui entre dans un village juif avec un juif à moitié mort. On va se dire, c'est toi, tu as fait ça. Le Samaritain entre et prend le risque. Il va à l'hôtel, à l'auberge. Il paye de son argent. Il prend soin de lui. Continue à prendre soin de lui. Et si tu vas dépenser plus que ce que je viens de te donner, je reviendrai encore pour payer le plus. Il s'y pose la question. Et ces trois personnes, qui a été le prochain ou la personne qui était par terre? C'est ici que je vais clôturer avec l'application. Cette application, je l'ai donnée ici il y a plusieurs années. Trois choses. Premièrement, il ne suffit pas seulement de voir le besoin. Il faut faire quelque chose. Il ne suffit pas seulement de voir le besoin, il faut faire quelque chose. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Il nous a aimés et il ne nous a pas aimés de loin. Écoutez, quand on aime, on donne. L'amour donne toujours. On peut donner sans aimer, mais on ne peut jamais aimer sans donner. Quand on dit qu'on aime, on donne toujours. On donne de son temps, on donne de son attention. L'amour donne toujours. Il ne suffit pas seulement de voir le besoin. Si tu aimes réellement, tu dois faire quelque chose. La Bible dit que le prêtre est venu. La Bible dit qu'il a vu. La Bible dit que le Lévite est venu. Le Lévite a vu. Ils ont tous vu. Mais ils n'ont rien fait. Il ne suffit pas seulement de voir. Il faut faire quelque chose. Des fois, il nous arrive de voir le besoin et nous convaincre à nous-mêmes que nous ne l'avons pas vu. Dans la rue, quelqu'un te demande, tu t'es dit, Seigneur, je ne l'ai pas vu. Ce qui sourit se retrouve. Je me souviens une fois, alors que je venais de prêcher dans l'université au Congo, et là j'étais invité à la chaîne nationale pour une autre émission. Là, je rentre dans ma petite voiture, je viens de prêcher. Je me dis, je rentre chez moi, je vais me changer pour aller à ces rendez-vous. Lorsque je quitte l'université, il commence à pleuvoir. C'est un lieu où il n'y avait pas beaucoup d'endroits où ça abritait de la pluie. Et moi, je suis là, je vois devant moi trois femmes. Elles cherchent un endroit où s'abriter, il n'y en a pas. Et moi, je me dis, Seigneur, je ne les ai pas vues. Je ne les ai pas vues. Je continue, je les dépasse. Quelques secondes plus tard, j'aime quand le Saint-Esprit parle avec une petite voix. Il me dit, Patrick, qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu prêches? Là, j'ai fait une fausse manœuvre. J'ai arrêté la voiture, j'ai fait marche arrière. Je suis rentré. Dans ma tête, je me disais, déjà, peut-être qu'elles sont déjà mouillées, elles vont salir ma voiture. Je me disais déjà, je suis pressé. Elles vont peut-être me dérouter. Elles vont me dire non, dépose-nous tel endroit. Et tu sais, Seigneur, je vais à ton œuvre. Je suis à ton service. Je suis pressé. Elles vont me dérouter. J'arrête la voiture. Je dis, est-ce que vous pouvez rentrer? Écoutez ce qu'elles m'ont dit. Il dit, nous venons d'une rencontre de prière. Quand il a commencé à pleuvoir, on a dit, Seigneur, envoie-nous quelqu'un. Dieu a répondu à leur prière par moi, et moi, je ne pouvais pas voir. Moi, je disais, Seigneur, je n'ai pas vu. Alors, peut-être que c'était la réponse de Dieu à leur prière. Et ils m'ont dit la deuxième chose. Ils disent, nous allons juste à côté de l'Assemblée provinciale. Chez moi, c'est juste derrière l'Assemblée provinciale. Je me disais, ils vont me dérouter. Et ils vont là où je vais. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Quand je les ai vus, je me suis dit, je n'ai pas vu. Seigneur, je n'ai rien vu. Et surtout que je suis pressé pour aller faire ton œuvre. Il ne suffit pas seulement de voir le besoin, il faut faire quelque chose. Tout ce qu'il y a autour de nous, nous voyons des choses. Nous voyons des choses, mais nous ignorons le besoin des gens. Je suis en train de parler de l'amour de Dieu dans une organisation que j'ai dirigée il y a plusieurs années au Congo. J'ai parlé de ça. Un jeune homme qui revient plus tard, il me dit, frère, pour la première fois, j'ai remarqué que mon voisin n'avait pas de bras. J'ai dit, comment ça? Il dit, bon, j'ai toujours su, mais je n'ai jamais vu que c'était un problème. Il dit, aujourd'hui, il était seul à la maison et il commençait à pleuvoir, il fallait qu'il déplace quelque chose. C'est là que j'ai compris qu'il était en difficulté. Il dit, pour une fois, je suis allé, je l'ai aidé à le faire. Et la façon dont il m'a remercié, je me suis dit, il a toujours vécu ici. Et je ne savais pas qu'il avait ce genre de besoin. Il y a des besoins autour de nous. S'il faut manifester l'amour que nous avons pour Christ, sachons voir ce qu'il y a. Et lorsque nous voyons ce qu'il y a, faisons quelque chose. Deuxième chose, ce que tu fais dépend de ce que tu vois. Je dis premièrement, il ne suffit pas de voir. Il faut faire quelque chose. Deuxièmement, ce que tu fais dépend de ce que tu vois. Je l'ai dit ici, nous ne savons pas pourquoi le prêtre est parti. Dans la loi juive, on disait le prêtre ne pouvait pas toucher au cadavre. Sinon, il deviendra impur. Peut-être que lui, il a vu quelqu'un qui était mort. Et il s'est dit, je ne veux pas devenir impur en le touchant. Alors, s'il a vu une opportunité à le rendre impur, ce qu'il a fait, c'est de se protéger. Encore quand cette route était réputée dangereuse, peut-être qu'il a vu le danger. Les brigands qui ont commencé ça, peut-être qu'ils ne sont pas loin. On peut se dire, si je reste ici pour vérifier ce qui se passe, le brigand risque de venir vers moi. Quand il voit les dangers, qu'est-ce qu'il fait? Il se protège. Ce que tu fais dépend de ce que tu vois. On peut voir la même chose, mais ce n'est pas la même chose qu'on conçoit. L'autre a vu peut-être une interruption. Peut-être peut se dire, je suis en train de aller faire l'œuvre de Dieu. On m'entend de l'autre côté. Si je reste ici, ça va m'interrompre dans ce que je suis en train de faire pour Dieu. Alors si ça va m'interrompre, je continue sur ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu vois le besoin? Ce que tu fais dépendra de ce que tu vois. Le Samaritain, il est venu. Il a vu quelqu'un qui était dans le besoin. Il s'est vu lui-même dans quelqu'un qui était dans le besoin. C'est ce qui l'a poussé à faire quelque chose. Ce que tu fais dépend de ce que tu vois. Troisième chose, c'est là qu'on va finir. Ce que tu vois est déterminé par ce que tu es. Ce que tu vois dépend de qui tu es. Différentes personnes voient différentes choses. Ce que tu vois est déterminé par qui tu es. Je l'ai dit premièrement, il ne suffit pas de voir le besoin. Il faut faire quelque chose. Deuxièmement, j'ai dit, ce que tu vas faire dépendra de ce que toi tu as vu. Et troisièmement, ce que tu vois dépend de qui tu es. Et c'est là que Christ, il change la question. Souvenez-vous, la question du docteur était, qui est mon prochain? N'est-ce pas? Mais Christ, il demande, qui a été le prochain de celui qui est par terre? Lui, il voulait savoir, qui est mon prochain? Mais dans l'exemple de Christ, il lui dit, au fait, le problème, ce n'est pas de savoir qui est ton prochain. Le problème, de savoir en qui tu te vois prochain. C'est pourquoi il dit, qui a été le prochain de celui qui est par terre? Si tu te vois comme celui qui est en train de souffrir, alors tu feras quelque chose. Mais si tu te vois différent, tu te dis, ça ne me concerne pas. Si tu considères que l'humain qui est en souffrance est comme toi, alors tu viendras à l'aide de cet humain qui est en souffrance. Mais si tu penses qu'en fait sa souffrance n'a rien à voir avec toi, alors tu ne feras rien. Si tu penses que tu es plus important que cette personne qui a un besoin, tu ne feras rien. Et Christ dit, qui s'est manifesté comme étant le prochain de celui qui était par terre, de celui qui était dans la souffrance. Quand on lit cette histoire, on peut se dire directement, mais non, le prochain, c'est celui qui est dans le besoin. Mais Christ, il montre, non. C'est à toi de te voir prochain pour celui qui est dans le besoin. C'est à toi maintenant, c'est d'abord à toi de te considérer prochain de toutes ces autres personnes. Et ici, il montre l'exemple des gens qui ne s'entendaient pas dans la vie normale, des gens qui ne pouvaient pas parler. Et là, il dit, quelqu'un qui ne les connaît pas. Et non seulement il ne les connaît pas, mais déjà, ils ne s'entendent pas. Non seulement ils ne s'entendent pas, mais dans la vie normale, ils se méprisent mutuellement. Mais ils donnent sa vie de 2 jours, son travail de 2 jours, pour qu'on prenne soin de lui. Et puis il dit, ce n'est pas tout. Fais encore, si tu dépenses plus, je reviendrai et je donnerai plus. L'amour du prochain, un acte dangereux. Et il prend la personne, il le met sur sa monture. Mais pour dire, il accepte de marcher, mais pourvu qu'il conduise cette personne à l'endroit où il aura le soin qu'il faut. Et arriver. Tout pouvait lui arriver quand il arrivait dans ces villages. On pourrait se dire, c'est Samaritain qui porte ce juif, c'est toi qui lui as fait ce mal. Il s'est dit, c'est possible, mais rien n'est dit que ça arrivera. Je prends le risque pourvu que cette vie soit sauvée. Il pouvait se dire, comme les autres, si je reste ici à essuyer ses plaies, les mêmes brigands peuvent revenir et me faire du mal à moi aussi. Mais il s'est dit, je prends le risque de faire ce que je dois faire. Parce qu'en fait, l'amour du prochain, c'est un acte dangereux. C'est pourquoi Christ, avant sa mort, comme un père qui veut laisser son héritage à ses enfants, dans Jean chapitre 4, dans Jean chapitre 13, verset 35, il veut mourir, il appelle ses disciples, il dit ce qui suit. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Il dit, je vous ai donné un exemple. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Comment est-ce que Christ nous a aimés? Jusqu'à la croix. L'amour que Christ avait pour nous, c'était un amour dangereux. C'est l'amour qui l'a conduit jusqu'à la mort. Son amour pour nous lui a coûté sa vie. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et après, il dit, c'est à cela que le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. Il ne dit pas, si vous allez à l'église chaque dimanche, le monde saura que vous êtes mes disciples. Il ne dit pas, si vous prêchez comme je suis en train de le faire, le monde saura que vous êtes mes disciples. Il ne dit pas, si vous priez tous les jours, haute voix, que vos voisins sont au courant de vos prières, le monde, ce n'est pas à ce moment-là que le monde saura que vous êtes mes disciples. Il dit, mais si et seulement si vous vous aimez les uns les autres, quand le monde verra l'amour que vous avez, alors, le monde saura que vous êtes mes disciples. Pourquoi? Parce que ce que je suis venu montrer sur la terre, c'est l'amour. Et quand on vous verra vivre comme j'ai vécu, faire comme j'ai fait, alors on saura que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, et je suis venu poser cette question à l'église d'Asnières, est-ce que vous vous aimez? Que dis-je? Est-ce que nous nous aimons? Et quand j'ai dit, est-ce que nous nous aimons? Je commence d'abord ici. Entre nous. Sommes-nous prêts à prendre le risque pour ceux-là qu'on aime? Et au-delà de nous, j'aimerais dire, est-ce que nous savons montrer l'amour de Christ là-dehors? Sommes-nous prêts à aimer comme Christ? À montrer l'amour de Christ partout où nous passons? À aimer comme Christ? Il nous appelle à aimer. Car c'est à ce moment-là que le monde reconnaîtra que nous sommes réellement des disciples de Christ. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Walk in love. Que Dieu vous bénisse.